Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Delphine Darmon et vous écoutez Demain n'attend pas. Dans ce podcast, nous discuterons à bâton rompu et à cœur ouvert avec des hommes et des femmes qui travaillent à rendre le monde un peu meilleur. Ils sont entrepreneurs engagés, investisseurs à impact, fondateurs d'ONG, artistes activistes. Ils repensent les industries traditionnelles comme la mode ou l'agroalimentaire. Ils agissent dans les domaines de la santé, de l'éducation ou de l'environnement. Ensemble, nous échangerons sur leur parcours, les raisons de leur engagement et sur leurs projets. Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. On a tous vu les images de plastique flottant à la surface de l'eau, le fameux septième continent. Mais savez-vous que ce plastique flottant ne représente que 1% des plastiques qui sont dans les océans? Le reste de tout ce qui est déversé, les 99% restants, se désintègrent en microplastiques au fond de l'eau, dégradant la faune et la flore marine, bien sûr, et aboutissant aussi dans nos estomacs via les poissons que nous mangeons. Et bien sûr, il est impossible d'imaginer ramasser ces millions de tonnes de microplastiques. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prendre le problème à sa source. Il faut couper le robinet, il faut nous déshabituer des plastiques à usage unique et il faut développer des solutions de recyclage, en particulier dans les pays à plus faible niveau de vie qui n'ont pas de solution de ramassage efficace. Voilà le défi auquel s'est attelé Simon Bernard avec son navire laboratoire Plastique Odyssée. Parti en mer il y a un an maintenant, le bateau a prévu de faire 30 escales sur 3 continents, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie, là où le plus gros de la pollution se concentre. À chaque arrêt, les équipes de Plastique Odyssée sensibilisent les populations, montrent que ces déchets peuvent être valorisés et recyclés avant qu'ils n'arrivent en mer, et ils identifient et soutiennent des solutions locales, low-tech, low-budget, qui peuvent être déployées. Dans cet épisode, Simon nous raconte pourquoi et comment il s'est lancé à corps perdu dans ce défi, à 25 ans à peine, alors qu'il était juste diplômé de l'École nationale de la marine. Il nous parle avec beaucoup d'humilité de son expérience d'entrepreneur social et de sa capacité à fédérer équipe et budget autour d'un projet ambitieux. Et il partage sa joie de rencontrer des entrepreneurs qui s'attachent à trouver des solutions pour recycler ou pour substituer du plastique dans tous les pays où le navire s'arrête. À l'écouter, on sent que les solutions sont entre nos mains. Alors je vous laisse avec Simon Bernard pour un épisode lumineux, empreint d'aventure, de détermination et de pragmatisme, au service d'une cause qui nous concerne tous. Bonjour Simon.
Bonjour.
Très heureuse d'échanger avec toi aujourd'hui, Simon. Alors pour commencer, j'aimerais que tu nous racontes comment tu as grandi et quel était ton rapport à la mer et à l'engagement.
Alors moi j'ai grandi à Concarneau, à côté de Concarneau, au bord de la mer. Et j'ai passé beaucoup de temps aussi à faire du camping sauvage en Corse avec mes parents. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup forgé, ce rapport à la nature et à l'océan, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans l'eau ou sur l'eau. J'ai toujours été vraiment... j'ai toujours eu cette passion, ce lien très fort avec la nature, l'océan. C'est vraiment là où je me sens, quand je vivais comme un Robinson Crusoe, je pense que c'est mes meilleurs souvenirs.
T'étais très lié à la nature, t'en voyais les dégradations à l'époque ou pas vraiment en fait?
Non, pas vraiment. Et j'ai toujours eu vraiment un attrait pour les questions environnementales, mais plus parce que j'aimais bien résoudre des problèmes. Je voulais être inventeur, j'aimais bien me creuser la tête et faire des plans, mais à aucun moment je me suis dit la planète est en danger, il faut la sauver. C'était pas ça l'approche. Je pense que c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire du camping sauvage et donc à devoir aller chercher de l'eau dans la montagne pour à devoir économiser l'eau pour se toucher, pour se laver les dents, l'électricité, on l'avait sur la batterie de la voiture. Tout ça fait que j'ai toujours été passionné à me dire comment est-ce qu'on peut faire pour économiser l'énergie, pour économiser l'eau. J'avais fait des dessins de douche de baignoire à recycler l'eau. Donc c'est un truc qui me passionnait parce que je passais beaucoup de temps dans la nature à essayer de vivre avec très peu.
Qu'est-ce que tu t'imaginais faire comme métier à ce moment-là?
Moi, j'ai longtemps voulu être vraiment inventeur, mais on m'a dit, tu sais, ça n'existe pas, il faut être ingénieur. Ça ne me parlait pas trop, ingénieur.
T'avais trop lu Géo trouve tout.
Ouais, j'avais ce truc de je voulais créer, explorer. Je crois que c'était ça, quoi. Je voulais découvrir des nouvelles choses. C'est ça qui m'a toujours animé. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire ingénieur. J'ai voulu faire marin, officier de marine marchande. J'avais cette idée un peu d'aventure, d'exploration. Mais je me suis rendu compte que c'était évidemment plus trop le cas. Et donc, cet aspect de créativité, d'inventer des choses me manquait, même si j'avais le plus beau bureau du monde à la passerelle des bateaux. Mais voilà, c'est ça me manquait encore.
Alors, en grandissant à Concarneau, tu étais évidemment très immergé dans la mer. Tu avais des marins dans la famille ?
J'ai pas du tout de marin, même si mon père faisait à un moment donné beaucoup de voile, mais il m'a jamais. Il a arrêté la voile quand je suis né parce que ça prend beaucoup de temps. Et donc j'avais pas forcément de marin, en tout cas de métier.
Mais ça a été ton appel.
C'est ça, et j'ai aussi eu la chance de rencontrer à Concarneau Roland Jourdain, le navigateur, qui à ce moment-là venait de monter une base pour les nouveaux explorateurs, qui s'appelle Explore, et qui réunissait des projets comme Under the Pole, qui font la plongée sous la glace, Nomade des mers, qui travaillait sur les low-tech, et qui partait pour un tour du monde. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert le milieu des expéditions, et que j'ai découvert qu'on pouvait faire ces choses-là.
Tu rencontres Corentin de Chapelleron via la base des nouvelles explorateurs, des nouveaux explorateurs, et tu pars dans son projet Nomade des mers. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que tu peux commencer peut-être par raconter à tous ceux qui ne connaîtraient pas le projet de quoi il s'agissait, comment cette rencontre et cet appel a eu lieu et pourquoi ça a résonné en toi tout de suite ?
Alors moi, j'avais découvert Corentin sur Thalassa. Il avait fait un film où il avait construit un petit bateau en toile de jute et puis il avait essayé de vivre en autonomie à bord de son bateau. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est vraiment un truc que j'aurais voulu faire. Et par hasard, il s'avère qu'il était aussi à Concarneau pour monter son expédition. C'est devenu maintenant encore plus The Place to Be, ça qui est assez incroyable. Et donc, je l'ai rencontré à ce moment-là et je lui racontais, j'étais officier mécanicien sur les bateaux, donc je m'occupais de fabriquer de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Je devais piloter la machine, le désalinisateur du bateau. Et donc je lui racontais comment on faisait à bord des gros ferries, on fait bouillir de l'eau pour faire de l'eau douce, et en récupérant l'énergie des moteurs, donc c'est assez astucieux. Et lui m'a dit, mais est-ce que tu veux pas imaginer un désalinisateur low-tech ? Donc une version simple qui pourrait servir au monde entier, être construit avec très peu de ressources. Et comme j'adorais inventer et créer des trucs, je me suis lancé là-dedans pendant un an sur mon temps libre. Et j'ai fini par embarquer quand l'expédition est partie avec mon désalinisateur dans ma valise.
Alors on se rend compte, Simon, combien ce moment-là a été fondateur pour toi, parce que c'est hyper inspirant, tellement inspirant qu'on voit bien la filiation avec Plastic Odyssey, on va y revenir. Tu montes à bord du bateau Les Nomades des Mers, combien de temps t'y restes et avec quoi t'en sors ?
Alors c'était assez court parce que j'étais en dernière année d'école. Donc j'ai réussi à négocier 2 semaines pour pouvoir partir et j'ai fait Maroc-Sénégal sur le bateau. Et c'est vraiment en arrivant au Sénégal, à la fin de cette expérience, où j'ai débarqué sur une plage remplie de plastique. La baie de Anne, qui est connue, on y était il n'y a pas longtemps, c'est rempli de plastique. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est toute l'ingéniosité qu'il y avait, alors sur le bateau, mais aussi au Sénégal. On peut vraiment tout faire, tout recycler. Le plastique n'est pas encore assez recyclé, il n'y a pas encore assez de solutions. Donc je me suis dit, si on arrive à faire la même chose, diffuser des solutions simples de recyclage et découvrir aussi ce qui existe, forcément, on va peut-être résoudre le problème.
Dans le Nomade des Mers, il n'y avait pas de focus sur un enjeu en particulier. C'était l'ensemble des enjeux de la crise environnementale qui était traité et l'ensemble des low-tech qu'on pouvait y apporter.
C'était les besoins de base.
Ouais,
c'était vraiment ça le focus. C'est comment, quels sont les besoins de base, quoi. Mais ça va aller jusqu'au traitement des déchets aussi, alimentaire, le compost, ouais. Un petit peu le plastique. Mais du coup, c'était assez global.
C'est ça. Donc, on est sur quelque chose de très large. Et toi, lors de ce passage, de cette escale à Dakar, t'es frappé par la possibilité d'appliquer la même méthode sur un enjeu particulier qui est celui du plastique, qui est tellement visible et tellement structurant en fait aujourd'hui.
Bah c'est ça, on commençait à en entendre parler à ce moment-là, et moi je l'ai découvert pas en mer comme on le disait, parce que j'avais beau avoir navigué, j'ai jamais vu d'île de déchets, il n'y a pas de plastique visible puisqu'il est au fond de l'eau ou dégradé. Mais par contre, quand on arrive sur des côtes polluées comme certains pays d'Afrique, là on se rend compte vraiment du problème et on voit la pollution qui littéralement se déverse dans l'eau. On voit les plastiques qui se déversent jusqu'à l'océan.
Tu étais, t'avais vu Ocean Cleanup à ce moment-là, qui était le mouvement emmené par Boyan Slate, un autre jeune hollandais, qui avait, je pense, été un des premiers à attirer l'attention sur la pollution plastique. C'est quelque chose qui t'avait déjà sensibilisé?
Complètement. Alex, mon associé, il voulait, qui était un copain de promo, il avait même postulé chez eux. Il voulait faire
donc
partie.
Donc il y avait quand même une vraie vigilance sur le sujet, du coup.
Voilà, et donc c'est ça, je pense, qui nous a aussi alerté sur cette pollution grâce à tout ce buzz médiatique qu'il y a eu. Mais en fait, à côté de ça, moi j'avais rencontré Patrick Dixon, qui est un explorateur qui travaille sur la pollution aussi, qui fait de la recherche scientifique avec 7e continent, qui lui m'avait dit, tu sais, en fait, il n'y a pas de 7e continent. Et on s'est un peu trompé quand on a appelé notre asso 7e continent, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'île de déchets, le plastique coule. Donc on ne peut pas nettoyer l'océan. Et c'est le premier qui m'a fait comprendre ça.
Alors, j'aimerais bien qu'on zoome un peu là-dessus, parce que effectivement, probablement en partie à cause de cette terminologie 7e continent, mais aussi à cause et grâce, hein, d'une certaine manière, aux images qui ont circulé derrière, où on voit ces amas plastiques flotter.
Qui ne sont pas des images du 7e continent, qui sont des images d'illustration. C'est ça le problème.
Mon Dieu.
Elles
sont fake.
Alors, elles ne sont pas fake. En général, elles sont prises le long des côtes. Donc, c'est des images
d'accord.
de la plage. Ou alors, il y a certaines images, c'est les seules, qui sont prises dans la mer des Sargasses aux Caraïbes, où c'est des algues qui ont accumulé un peu de polystyrène. Donc, on a l'impression qu'il y a une île de plastique, mais c'est des algues.
Alors, ces images-là, elles ont permis la prise de conscience. Donc, je pense qu'il y a eu des effets positifs. Mais c'est vrai qu'elles nous ont laissé avec l'idée que le plastique flottait. J'aimerais revenir sur ce que tu disais. J'ai en tête un chiffre. Tu me corriges-moi si je me trompe. J'ai en tête que seul 1% des plastiques flottent et qu'on a 99% des plastiques qui arrivent dans la mer, qui se retrouvent au fond de l'océan sous forme de microplastiques. Donc, tu ne les vois pas et c'est effectivement impossible de les ramasser. C'est ça ? On est dans les...
Ouais, l'ordre de grandeur, c'est ça. C'est un peu moins d'1%.
C'est dingue. C'est dingue. Donc, ça nous montre effectivement à la fois où est le problème et l'immensité du problème. Est-ce que tu veux peut-être nous rappeler quelques chiffres pour qu'on ait tous, avant de rentrer dans la description de Plastic Odyssey, tous bien en tête les enjeux ?
Alors, c'est ça. Donc, 1% du plastique flotte, alors qu'on a mis énormément de plastique et qu'on continue d'en mettre beaucoup. C'est ce que les scientifiques appellent le mystère plastique. Donc, on ne sait pas exactement où est ce plastique. On sait juste qu'il n'est pas à la surface. Bon, évidemment, il y a plein d'hypothèses. C'est sûrement dans l'eau, hein, dégradé dans la colonne d'eau ou au fond. Mais effectivement, on ne sait pas où il est parce qu'on ne peut pas le mesurer à la surface. Et donc, d'autres chiffres. J'aime bien montrer chaque minute la quantité. Quand on a commencé, on parlait de 19 tonnes. Et donc, c'est... été repris beaucoup. Là, j'ai refait le calcul il n'y a pas longtemps, on est plutôt à 30. À 30 tonnes par minute. C'est sûrement beaucoup plus.
Donc, arrête-moi, mais le plastique ne va pas directement dans l'océan, ça passe par des décharges. Quel est le trajet en fait, d'une bouteille en plastique qui n'est pas recyclée ?
Ça peut passer par les décharges, ça peut passer par des rivières ou tout simplement par les canalisations dans les villes. Dans les rues, quand on jette un déchet dans la rue, très rapidement, la pluie, le vent, ça va se déverser dans les canaux, jusque dans l'océan. Et ça, on le voit vraiment. On était en République dominicaine il y a quelques temps, et on voit vraiment même des gens jeter directement dans l'eau les poubelles. Depuis les canalisations, du plastique se déverser. Donc c'est assez impressionnant.
Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle quelque part. Hein. Une vingtaine de pays, ça rend les choses aussi plus cernables. Ça te permet d'identifier avec qui tu dois travailler. Je crois que tu as aussi un certain nombre de fleuves dans lesquels ça se déverse, qui sont que vous avez identifiés, qui ont été identifiés par les chercheurs comme étant les fleuves qui conduisent le 20-80 des déchets. Comment est-ce que vous voulez aborder ce sujet-là, à la fois baisse de conso, recyclage, et puis tu mentionnais un sujet en filigrane qui est celui de l'éducation aussi, la prise de conscience.
C'est ça. Donc en fait, alors il y a un autre, la majorité c'est 20-30 pays, il y a aussi l'export des plastiques qui doit représenter 10% des États-Unis, un peu de l'Europe aussi sûrement. Ça c'est plus dur à mesurer. Mais globalement, donc c'est des sujets politiques, Globalement, le challenge, c'est pour nous, en tout cas, c'est de s'intéresser à ces 30 pays à bas et moyen revenu en apportant des solutions et pas en allant critiquer ou en allant pointer du doigt. Et donc pour ça, on a vraiment deux volets. C'est des actions sur la réduction en travaillant plutôt sur le côté sensibilisation avec les plus jeunes, avec le grand public et en montrant des alternatives concrètes. Donc ça, on a toute une équipe qui travaille là-dessus. Comment est-ce qu'on pousse le changement de comportement, comment est-ce que on trouve des alternatives aussi sur le terrain. Donc à chaque escale de notre expédition, on cherche déjà des initiatives qu'on peut documenter. La dernière en date en République dominicaine, justement, permettait de remplacer les barquettes en polystyrène qui sont beaucoup utilisées, le midi notamment. Et donc ça, on a des marées entières de barquettes blanches. Et on a découvert une entreprise qui récupérait des écorces de palmiers, des feuilles de palmiers. Et simplement en les pressant, donc sans avoir besoin de colle, arriver à refaire ces barquettes. Alors ça reste de l'usage unique, il vaut mieux quand même avoir du réutilisable, même si c'est des ressources gratuites, naturelles. Mais c'est intéressant parce que ça montre des nouvelles voies. Et on a un autre exemple qui est plutôt sur le changement d'usage. C'est à bord du bateau, on essaye de ne pas utiliser de plastique. On a une station de potabilisation. On a vraiment un système qui permet d'avoir de l'eau potable. Et donc, à chaque escale, on récupère l'eau des villes, l'eau douce, mais qui n'est pas potable, et on la filtre pour pouvoir boire. Et donc là, on a économisé 10 000 bouteilles depuis le début de l'expédition. Ça, c'est des solutions qui peuvent être répliquées partout.
Est-ce que vous parlez également avec les grandes entreprises et avec les pouvoirs publics ?
Alors, aussi, mais... On a la chance d'avoir ce navire un peu emblématique qui attire énormément de gens. Donc on peut avoir pas 100% du temps, mais je veux dire une escale sur deux, on arrive à avoir un ministre ou une ministre à bord. Mais c'est en général pas satisfaisant parce que souvent ils nous disent ah, on a fait une loi qui interdit les sacs plastiques, mais en fait elle n'est pas appliquée. Et donc on voit bien qu'on n'a pas du tout... c'est pas très concret les solutions qu'on peut mettre en place avec les politiques. Donc nous, on aime bien partir du terrain et monter des initiatives concrètes, donc plutôt s'intéresser à l'entrepreneuriat local pour faire changer les choses depuis la base finalement. Nous, l'idée, c'est plutôt de monter, de mettre en place des filières de recyclage local. Donc c'est plutôt dans ce cadre-là. C'est comment est-ce qu'on met autour de la table tous les acteurs pour faire naître des micro-usines qui vont transformer le plastique et en faire des produits finis pour pouvoir faire une sorte d'économie locale du recyclage plastique. Nous, c'est plutôt dans cet axe-là. Le côté réduction, on s'intéresse plus au grand public, aux enfants, aux consommateurs finalement.
Oui, et là, tu es dans de l'éducation plus que dans de la promotion d'innovation. Alors, recyclage avec des micro-usines qui transforment, ah, c'est vachement intéressant. Est-ce que tu peux nous amener sur quelques exemples là aussi pour que concrètement on voit bien qu'est-ce qui peut être fait ? Parce que tu vois, chez nous, on parle beaucoup de plastique recyclé, mais on sait aussi que ça a ses limites. On sait que en fait, une proportion assez faible du plastique est effectivement recyclé. Qu'est-ce qu'on peut en faire dans tes micro-usines qui sont promues sur ton bateau ?
Alors c'est vrai que nous on parle de recyclage, mais ça n'a rien à voir avec le recyclage en France, et c'est deux trucs qui sont complètement différents et pas du tout liés. Nous, ce qu'on fait, on va dire que c'est de... On va stocker les déchets dans des objets qui vont durer longtemps. Donc on n'essaye pas de recréer une bouteille avec une bouteille ou d'avoir une sorte de baguette magique qui fait qu'on va pouvoir continuer à consommer de l'usage unique. C'est pas du tout le projet. L'idée, c'est arrêter l'usage unique, mais à côté, stocker les déchets qui sont déjà là dans des matériaux de construction, dans des produits finis qui vont en plus de ça résoudre un problème local. Et je donne un exemple, c'est fabriquer des planches en plastique recyclé au lieu du bois pour éviter de couper des arbres et puis avoir un débouché, des débouchés dans par exemple des matériaux de construction, du mobilier urbain, des pontons. On a pas mal de pontons qui sont en bois dans des marinas ou autres. Ça pourrit, donc ça doit être remplacé tous les 3 ans. Si on le fait à partir de plastique de récupération, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc ça, on peut résoudre aussi des problèmes, on peut faire d'une pierre deux coups.
À chacun de vos arrêts, Simon, vous identifiez des innovations locales et low cost qui permettent de recycler du plastique ou qui permettent de lui substituer du plastique existant qui est aujourd'hui du plastique à usage unique. Est-ce que certaines de ces innovations auraient un potentiel pour être reprises et développées chez nous également ?
Alors ça reste des modèles qui fonctionnent dans des pays à bas et moyens revenus. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Il faut comprendre qu'on ne peut pas avoir les mêmes économies et les mêmes façons de vivre en France ou dans des pays plus pauvres. Tout simplement parce que les infrastructures sont différentes, le coût de la vie, donc les salaires sont différents, les revenus. Donc tout ça fait qu'il faut inventer des modèles économiques à chaque fois spécifiques à la région et au pays. Et donc on va préférer dans des pays plus pauvres avoir plus de main-d'œuvre, parce qu'il y a beaucoup de chômage et donc les salaires sont assez bas. Mais beaucoup moins de machines qui vont être automatisées parce que ça risque de casser et de jamais être réparé. Et ça coûte cher. Donc on cherche à adapter comme ça avec des solutions qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, mais qui sont fiables, robustes et adaptées au pays. Et en France, on ne ferait pas la même chose puisqu'on va chercher à tout automatiser, à plus avoir personne qui travaille pour réduire les coûts et avoir un modèle économique qui se tient. Donc c'est des logiques un peu différentes.
Le processus serait très différent, tu as raison de le rappeler, et en même temps la transformation du plastique en matériaux de construction avec un processus différent pourrait aussi intéresser des grands du BTP. Quand tu vois les milliards de tonnes qui existent aujourd'hui, c'est un matériel gratuit, existant et qui appelle transformation.
C'est pas si gratuit parce qu'il faut aller le chercher. Et c'est pour ça qu'en général, c'est quand même moins cher de l'enfouir ou de parce que ça coûte de l'argent de le collecter, de le trier, d'arriver jusqu'à l'usine. Donc c'est pour ça que c'est pas aussi fait à grande échelle aussi facilement. C'est que ça coûte de l'argent. Mais en tout cas, des logiques comme les nôtres de transformer directement en produits finis des déchets, on en trouve en France. Le Pavé, c'est une start-up qui est assez connue maintenant. On a démarré un peu en même temps et ils font des plaques en plastique recyclé qui forcément coûtent plus cher que des matériaux classiques, mais du coup qui ont une vraie valeur ajoutée et qui servent dans du mobilier aussi maintenant.
Une autre spécificité de ton bateau, qui est un grand bateau, hein, 40 mètres, c'est ça ? C'est que vous utilisez le plastique pour faire le carburant du bateau. Tu peux nous en parler un peu, parce que c'est vrai que ça paraît un peu assez magique.
On a effectivement un système qui permet de faire du carburant avec le plastique à bord du bateau. On a aussi tout un atelier de recyclage pour faire des objets. Donc l'objectif, c'est plutôt de tester des solutions pour les démontrer et faire en sorte qu'elles soient répliquées. Donc la finalité, c'est pas le bateau, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à répliquer ces solutions. Aujourd'hui, le plastique to fuel, donc faire du carburant par pyrolyse, c'est quand même très compliqué. Ça ne fonctionne pas encore d'un point de vue économique. Et en tout cas, on ne l'a pas encore vu. Donc ça reste un prototype, ça reste de la recherche pour nous. Mais pour l'instant, on ne l'implémente pas encore. Ça va venir. Mais
ouais, on est dans l'ordre du symbole, en fait, sur ce sujet-là. Là où, sur une bonne partie de tes autres machines qui sont sur le bateau, tu es vraiment dans la démonstration de solutions qui existent et qu'on peut répliquer ou adapter à d'autres contextes dans d'autres pays. C'est une grosse ONG que tu as créée, très jeune, et sur une durée longue. On parlait avant de commencer à enregistrer des niveaux de budget que tu as été chercher de tes partenaires. Comment on fait quand on a 25 ans-ish à l'époque, quand tu as commencé, et qu'on va taper aux portes des entreprises, que le bateau n'est pas là par définition, il n'est pas encore construit, tu es au niveau de l'idée. Comment on fait pour convaincre des grands groupes d'aller mettre des sommes assez considérables sur la table ? Qu'est-ce que tu as à nous raconter qui soit, tu vois, quels sont tes apprentissages dessus ?
Alors, je pense que ce qui a fédéré, c'est la vision, l'ambition et la manière de résoudre ce problème, parce que plein de gens s'intéressent au plastique, mais nous, on avait décidé d'avoir quelque chose qui est très ambitieux, très compliqué, mais qui est malin et qui parle à des entrepreneurs, qui parle à des chefs d'entreprise, parce que là, il y a une logique derrière qui tient vraiment la route. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, qui a réuni. C'est pas du tout la communication. Les gens, souvent, ils me disent « Ah oui, mais c'est facile, il suffit d'aller voir une entreprise pour mettre un logo sur ton bateau et puis t'as de l'argent. »
Non, pas c'est du pas tout facile, le cas. C'est pas facile, ça je peux
et,
te le dire.
Et personne n'est intéressé à mettre un logo sur le bateau pour la communication. Donc si tous les partenaires qui sont là, c'est pas du tout pour la communication, c'est pas ça qui les a convaincus. C'est vraiment la vision, donc c'est la problématique. du plastique qui intéresse tout le monde, et je pense qu'on est arrivé à une bonne période pour ça. Et c'est surtout la vision, et donc tout l'impact qu'il peut y avoir derrière, même si ça va être, ben c'est pas simple, c'est long, c'est compliqué. Et puis après, une fois qu'on a une vision, une idée, etc., il faut quand même réussir à trouver les bons contacts et convaincre. Et donc ça, ça se fait avec le temps. Ça se fait, Jean-Louis Etienne, c'est vraiment son message à chaque fois, c'est la persévérance. Et il n'y a que ça qui fait qu'on finit par y arriver. C'est-à-dire que ce n'est pas au premier rendez-vous avec quelqu'un qu'on va réussir à le convaincre. C'est peut-être après 2-3 ans, à force de voir qu'on est encore là, qu'on tient et qu'on a avancé, on finit par être crédible. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire un petit projet. Donc on s'est dit, on va prendre 2-3 ans. Ça nous a pris 3 ans quasiment pour mettre au point un petit bateau avec des petites machines et faire nos preuves. Et donc, même si on avait ce rêve de faire une expédition dans le monde, à l'international, on s'est concentré vraiment sur un petit bateau qui allait rester en France. Et on a déjà passé cette première étape. Donc, c'était déjà un premier succès. Et ça, ça nous a conforté, ça nous a donné encore plus envie de continuer, d'aller au-delà. Et donc, après, on a acheté un bateau. Donc, à chaque fois, on avait des étapes comme ça. Et le but se rapprochait, mais on avait des étapes intermédiaires qui nous permettait de tenir bon, parce qu'on voyait l'étape juste après qui était accessible.
Quelque part, je retrouve la vision de l'ingénieur, la démarche de l'ingénieur, en tout cas derrière ça. Et là aussi, c'est intéressant à rappeler. C'est en y allant par étape qu'on peut tenir.
Il faut être très têtu, il faut être culotté, il faut prendre des râteaux en permanence. C'est-à-dire que je ne sais même pas s'il y a c'est peut-être moins d'1% le taux de réussite. Et donc, en fait, c'est juste une succession de râteaux. C'est 7 ans de râteaux et d'échecs, avec très très peu de réussite. Mais c'est ce peu de réussite-là qui fait qu'on est là aujourd'hui.
Quand tu te retournes sur l'année qui vient de s'écouler, est-ce qu'il y a des moments forts que tu aurais envie de partager ?
Je crois que c'est surtout les rencontres. Parce que c'est une expédition technique, mais en réalité, c'est surtout une expédition humaine. Et c'est tous ces entrepreneurs, ces gens qui se bat au quotidien pour faire des trucs incroyables qu'on rencontre à chaque escale. Et c'est ça les meilleurs moments. On en a un juste à côté en ce moment qui est venu nous voir là, du Maroc, qu'on avait rencontré au Maroc. Et à chaque escale, on a des rencontres incroyables. On a fait un film documentaire qui sortira bientôt. Et justement, on a ces personnages-là, on les voit qui... Ça se transpire vraiment une énergie folle. On a le doyen des pêcheurs sénégalais, Mustapha, qui avec qui on a passé du temps à Dakar pour fabriquer une pagaie à partir des déchets et remplacer les pagaies en bois qui finalement on doit couper des arbres pour faire des pagaies. Donc ça, c'est des moments vraiment très forts, quoi, où on est immergé au cœur des pêcheurs. Je me suis retrouvé sur une pirogue à tester une pagaie que j'avais fabriquée sur le bateau en plastique recyclé. Il y a vraiment des rencontres comme ça qui marquent.
Ouais, et puis là, tu vois directement les applications possibles. Tu mentionnes le film est fait avec les équipes de Canal, hein, c'est ça ?
C'est ça, on a fait l'avant-première cette semaine, donc il va sortir fin octobre.
Donc tu as été suivi pendant toute cette année, vous continuerez à être suivi dans les 2 années qui viennent ?
C'est ça, on va faire un film tous les ans normalement, et alors là le premier film il s'intéresse à 3 escales, parce que sinon il faudrait passer beaucoup de temps, on n'avait pas le temps de tout raconter, donc on raconte 3 escales, mais on a aussi une web-série où, là sur YouTube, où on peut à chaque escale, on présente une initiative locale. Donc c'est une rencontre avec une personne incroyable. Et donc à chaque fois, c'est vraiment des personnages qu'on découvre à chaque escale.
Génial. Alors je mettrai dans les notes de l'émission évidemment le lien vers la web-série. Ça nous renvoie vers le fait quand même qu'il y a aujourd'hui beaucoup de solutions qui existent, qui sont des solutions assez frugales et qui peuvent être déployées. Ça nous renvoie aussi vers l'idée qu'on a tous envie d'accompagner ces déploiements, d'aider d'une façon ou d'une autre. Quel message tu nous portes aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut vous suivre, mais surtout accompagner Plastic Odyssey ? Comment on peut aider les entrepreneurs que vous identifiez ?
Ben, je pense qu'on peut aider à plein d'échelles, puisque déjà en tant que consommateur, on peut contribuer en réduisant notre consommation. Donc ça, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, on va dire. Et puis après, quand on est une entreprise ou qu'on a des moyens de contribuer soit financièrement ou d'accompagner des porteurs de projets, pareil, on a toujours on rencontre des gens qui ont toujours des besoins. On essaye de le faire un peu, de mettre en contact nos partenaires avec les entrepreneurs qu'on rencontre. Donc là, en ce moment, on a Georges qui est entrepreneur au Liban, qui est avec un de nos partenaires pour un accompagnement entrepreneurial pendant 2 semaines. Donc on essaye vraiment aussi de pouvoir contribuer à ces projets, si c'est pas financièrement, avec de l'accompagnement aussi pour les aider à grandir.
Ça, c'est assez génial et c'est quelque chose que je n'avais pas en tête dans Plastic Odyssey. Vous jouez presque le rôle d'accélérateur avec les différentes parties prenantes, donc les entrepreneurs que vous croisez d'un côté, évidemment, mais aussi vos sponsors ou vos partenaires qui, eux, peuvent soutenir et parfois reprendre certaines des initiatives. Il y a un rôle d'accélérateur.
C'est ça, c'est un peu ce bateau, c'est un peu un incubateur parce qu'on a à chaque escale une dizaine d'entrepreneurs qu'on accueille à bord pendant une semaine. Et donc il y a une sorte de formation technique sur le bateau avec les machines, mais l'idée c'est aussi de créer une grande communauté mondiale avec des entreprises locales, des entreprises françaises, éventuellement des décideurs politiques ou du public. Donc l'idée c'est vraiment de créer cet écosystème, de réunir. Je pense que c'est ça aussi notre force, c'est d'avoir pu fédérer énormément de gens différents. Et donc si on peut créer cette communauté qui va échanger et faire grandir ces projets, on le fait.
Simon, j'aime bien terminer les interviews avec 2 questions finales. J'aimerais commencer par te demander si tu as eu un livre, ou des livres d'ailleurs, qui ont été marquants pour toi et que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui.
C'est vrai que c'est spécifique parce que c'est des projets un peu qui nous ressemblent, mais des livres comme Objectif Soleil de Bertrand, Picard ou Persévérance de Jean-Louis Etienne, c'est autant d'histoires qui nous rappelle que, bah oui, en fait, on n'est pas tout seul et que c'est normal d'avoir des problèmes, c'est normal de galérer, c'est normal d'être dans l'incertitude et que si c'est arrivé à d'autres qui ont réussi, on peut y arriver aussi. Donc, c'était des bons exemples et je pense qu'il y a aussi, on peut peut-être parler aussi du livre qui va sortir.
Donc ça, Simon, c'est un livre qui n'est pas encore publié mais dont la publication est imminente et qui, à l'image du film de Canal, enfin du docu de Canal, va reprendre l'histoire de votre aventure. Raconte-nous.
C'est un livre qui est en précommande mais qui sort la semaine prochaine, le 11 octobre, et qui s'appelle « Parcourir les océans pour sauver la Terre », aux éditions EPA. Et qui raconte non seulement la création du projet, donc les galères, le premier bateau qu'on a construit, le chantier du bateau qui a été terrible, qui a été des galères pas possibles, et toute cette première année d'expédition, qu'on n'a pas pu raconter dans le film, puisqu'on n'avait vu que 3 escales dans le film. Là, on raconte les 10 premières escales et tous les projets qu'on a pu rencontrer.
Super, super, ça donne envie. Et en plus, c'est un beau livre, donc il s'offre, il se lit et il s'offre.
C'est ça, c'est pas un roman, c'est vraiment un livre avec beaucoup de photos, un récit d'aventure, et donc c'est un bel ouvrage.
Quelles sont les personnes engagées et inspirantes à qui t'aimerais passer le relais?
Je sais pas si t'as reçu Corentin de Châtel-Perron, mais c'est vrai qu'il était un peu sous les... Il était plus trop dans les médias dernièrement, puisqu'il était sur son expédition, qu'il est reparti au Mexique et qu'il a des nouveaux projets. Et c'est vraiment une personnalité inspirante pour moi. Donc je pense que ça serait vraiment un bel invité à avoir.
Absolument. Alors, d'une part, son aventure est fabuleuse, on en a amplement parlé aujourd'hui, mais aussi parce qu'il arrive à terme de sa navigation, c'est intéressant de voir quels enseignements il en a eu et à quoi il passe derrière, comment il capitalise dessus ou passe à autre chose. Donc Corentin, tiens-toi prêt, je te contacte très bientôt. Merci infiniment Simon, merci pour Plastic Odyssey, merci pour les enseignements que tu nous délivres aussi aujourd'hui. Je retiendrai sauter le pas dans l'incertitude, je pense que c'est une très belle phrase. Merci aussi pour le rappel de l'importance du bricolage, entre guillemets. C'est un mot que j'aime bien. Apprendre au sens propre quand tu parles de ce que tu fais sur le bateau, mais aussi au sens figuré, parce que c'est assez symbolique, je trouve, de l'approche que tu as avec Plastic Odyssey, d'une certaine frugalité dans les innovations et de façon plus générale d'un rapport au monde, je trouve. Donc merci pour tout ça.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu.
N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcasts. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain N'attend Pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.